Mes bien chers frères, avant de commencer le sermon de l'Épiphanie, une nouvelle qui vous intéressera, je pense, vous vous rappelez ce petit enfant qui était venu me déranger pendant un sermon. Je l'ai baptisé le jour de Noël. Un beau baptême d'adulte, comme il a 8 ans, évidemment, il n'est plus un petit, il n'est plus un enfant. C'est le baptême des adultes. On se prosterne de tout son long en entrant dans l'église, en signe d'adoration de Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous fêtons aujourd'hui la fête de l'Épiphanie. Épiphanie veut dire manifestation, manifestation de Dieu. Nous voyons que les mages sont venus adorer notre Seigneur. Lorsqu'ils entrent dans Jérusalem et qu'ils cherchent le roi du ciel, ils disent qu'ils ont vu son étoile et que, guidés par elle, ils sont venus l'adorer. Vous remarquerez le contraste entre la petitesse de l'enfant Jésus, cette manifestation de l'enfant Jésus dans une pauvre crèche. En réalité, la chronologie n'est pas très exacte d'après les évangiles. Les mages sont-ils arrivés juste après le 25 décembre, ou au contraire, sont-ils partis le 25 décembre de chez eux, puisque l'évangile nous dit qu'ils ont trouvé l'enfant et sa mère dans une maison. Enfin, peu importe. Toujours est-il que l'enfant est dans une crèche ou dans une maison, en tout cas c'est un enfant enveloppé de l'ange, tout petit, et c'est la manifestation du Fils de Dieu. Et cette manifestation est absolument extraordinaire, puisque Dieu, j'allais dire, dérange le ciel, comme plus tard il le fera à Fatima avec le miracle extraordinaire du soleil. Donc, pour manifester sa naissance, il envoie une étoile miraculeuse ou une étoile ordinaire, peu importe là encore. Toujours est-il que cette étoile ou cette comète est un signe. Le ciel est dérangé pour signaler aux mages, c'est-à-dire à ces hommes sages qui cherchaient la vérité, leur signaler la naissance du Fils de Dieu. Les mages aussitôt viennent adorer notre Seigneur, c'est ce qu'ils disent à Hérode, nous sommes venus l'adorer. La manifestation de Dieu se fera une nouvelle fois sur la croix. Notre Seigneur manifestera la puissance de sa divinité, il règnera définitivement, il est venu ici-bas conquérir son royaume, et nous voyons le roi paraître sur la croix, le roi conquérera définitivement son royaume. Et vous remarquerez là encore que la royauté de notre Seigneur se cache. Pourquoi cela? Pour nous obliger à lui rendre gloire pour ce qui est essentiel en lui et non pas à lui rendre gloire pour des motifs humains ou pour des raisons qui plaisent au monde. Notre Seigneur est né dans une crèche, il se manifeste petit enfant, il mourra sur la croix. Tout cela est évidemment une leçon pour nous faire comprendre qu'il y a une richesse extraordinaire, mais qu'elle est à chercher au-delà des apparences. Les mages sont venus adorer notre Seigneur. C'est un acte de la vertu de religion. Ce sermon, je le fais pour les adultes, bien sûr, mais je pense particulièrement aux adolescents, là. Quel est le but de votre vie, mes chers amis? Pourquoi êtes-vous sur terre? Qu'est-ce que la vertu de religion? Vous concerne-t-elle? Bien sûr. Vous avez les vertus théologales et les vertus morales. Les vertus théologales nous font participer à la vie de Dieu comme notre Seigneur participait à la vie divine et pour cause, puisqu'il est Dieu et homme, en étant sur terre. Foi, espérance, charité. Notre Seigneur n'avait pas la foi puisqu'il avait la vision. Il n'y avait pas l'espérance parce qu'il avait la possession, et il avait la charité, bien entendu. Il avait mieux que la foi, mieux que l'espérance, c'est ça que ça veut dire. Et il avait la charité. Et cette présence de Dieu en notre Seigneur Jésus-Christ va évidemment influencer son comportement. Le comportement de Jésus est le comportement du Fils parfait de Dieu. Il est le comportement de la créature parfaite. Sa nature humaine créée a le comportement exactement, parfaitement attendu, conforme à ce que Dieu attend d'un homme. Et ce sont les vertus morales. Les vertus morales qui vont guider notre comportement. Je vous l'ai dit dans le sermon de dimanche dernier, nous devons imiter notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'agit évidemment pas d'imiter notre Seigneur en se disant « je vais me faire charpentier » ou « je vais vivre en Galilée » ou des choses de ce genre-là. Alors comment imitons-nous notre Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, nous nous mettons en présence de Dieu. Comment notre Seigneur aurait-il agi? Et surtout, quelle est la qualité des actions qu'il aurait posées? La première attitude de notre Seigneur est envers son Père. Et notre Seigneur adore Dieu le Père. Cette adoration, il la communique, si je puis dire, à tous les chrétiens. Et voici que les mages, ayant une révélation par l'étoile et par l'Esprit Saint, bien entendu, parce qu'ils ont été plusieurs à voir l'étoile, puis il n'y en a que trois qui se sont déplacés. Comme vous en avez plusieurs qui étaient au pied de la croix, et vous n'en avez que peu qui ont cru en notre Seigneur Jésus-Christ. Et il ne suffit pas d'être au pied de la croix pour croire. Comme vous en avez beaucoup qui vont à la messe de Saint Pie V, et qui ne sont pas pour autant unis à notre Seigneur Jésus-Christ, qui peuvent être unis à eux-mêmes en allant à la messe, même de Saint Pie V. S'il suffisait d'aller à la messe pour être sauvé, ça serait trop facile. Pour être sauvé, il faut une attitude intérieure. Écoutez-moi bien, mes chers amis. Parce que vous êtes jeunes et c'est l'extérieur qui vous parle. Et comme le monde est utilisé par Satan pour essayer de vous détourner de Dieu, Satan utilise le monde extérieur, il utilise les moyens extérieurs, et aujourd'hui, il a développé tout l'audiovisuel et tout ce que vous avez sur les téléphones portables. Je ne sais pas si les parents mesurent à quel point les téléphones portables, avec Internet à disposition, avec des vidéos, avec de l'audiovisuel constant, à quel point ces machines-là anesthésient l'esprit chrétien chez leurs enfants, l'esprit humain, l'esprit de générosité, l'esprit spirituel, l'esprit tout court, la vie intérieure, la vie intérieure. On n'a rien compris au monde moderne tant qu'on n'a pas compris qu'il était une conspiration contre toute forme de vie intérieure. C'est Bernanos qui l'affirme. Alors écoutez-moi bien, mes chers amis, je sais bien ce que je vous prêche, n'est absolument pas ce qu'on vous prêche d'habitude, et si vous êtes déjà un peu attiré par le monde, vous allez trouver que ma prédication ne correspond pas à ce que vous attendez. Mais je vous prêche Dieu, je ne vous prêche pas le monde. Alors je vous disais, notre première attitude, vous voyez, est une attitude semblable à celle de notre Seigneur, qui consiste à adorer Dieu, à vivre dans la vertu de religion. La vertu de religion est celle qui met notre vie au service de Dieu. Quels sont les actes de la vertu de religion? Allez, est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui va pouvoir répondre? Vous avez dû apprendre ça au catéchisme. Le premier acte, la dévotion, le service de Dieu. Et puis ensuite, Ensuite, la prière. Et puis l'adoration. Et puis le sacrifice, j'oubliais, essentiel le sacrifice. Il y en a quelques autres aussi, je vous en parlerai. Nous parlerons une prochaine fois du service de Dieu. Les mages sont venus adorer. Qu'est-ce que l'adoration ? Rendre témoignage à l'excellence de Dieu. Or, Dieu a une excellence tout à fait particulière. C'est l'excellence du Créateur. C'est l'excellence de celui qui non seulement tient tout dans sa main, mais qui ordonne tout. Il ne suffit pas de se dire que Dieu tient les choses dans sa main. Prenez l'exemple d'une bonne pensée. Vous avez une bonne pensée. D'où vous vient-elle ? Vous dites « elle vient de moi ». Non, elle ne vient pas de vous. Elle vient de Dieu, qui vous l'inspire. Vous allez me dire, alors si j'ai une mauvaise pensée, une mauvaise pensée, c'est s'écarter d'une bonne pensée qui vient de Dieu. Ça vient de vous. Dieu vous suggère un acte de générosité. Si vous le faites, avec la grâce, c'est Dieu qui vous guide, c'est Dieu qui vous attire, c'est avec Dieu que vous agissez. Si vous refusez, ce qui vient de Dieu, vous détruisez l'œuvre de Dieu, vous croyez faire quelque chose, vous ne faites rien, vous ne faites que détruire. L'homme n'est pas capable de susciter un chêne sans prendre un gland, et le gland, c'est pas lui qui l'a fait. Mais il peut mettre le feu à une forêt. Et l'homme n'est pas capable d'avoir une bonne pensée sans que Dieu la lui inspire, mais il peut mettre le feu aux bonnes pensées de Dieu, aux bonnes actions de Dieu en lui, c'est-à-dire les détruire, c'est le péché. L'adoration, on vous en parle peu parce que, j'allais dire, c'est facile, c'est très facile. C'est reconnaître que Dieu est le Créateur, que nous dépendons de lui, qu'il crée tout, qu'il influe sur tout, que le monde entier, et pas seulement le monde, pas seulement le monde matériel, mais nos âmes sont dirigées par lui. La correspondance de la vertu de religion et de l'adoration, c'est l'humilité. Une vertu qui est difficile à acquérir dans l'adolescence, mais qui est capitale. Mes chers amis, c'est capital. Vos années de 12 à 18 ans sont des années pour acquérir l'humilité sans perdre les grandes vertus de générosité, de magnificence, magnanimité, toutes les grandes vertus qui nous mettent au service de Dieu. C'est difficile parce que on croit que l'humilité consiste à se rabaisser. Elle ne consiste pas à se rabaisser. La Sainte Vierge ne se rabaisse pas du tout lorsqu'elle chante le Magnificat. Elle dit « Il a fait pour moi de grandes choses ». Elle ne dit pas « Je suis nul ». Il a regardé la bassesse de sa servante. Mais quand il l'a regardée, il a fait pour elle des grandes choses, des très grandes choses. Seulement, elle sait très bien que c'est lui qui l'a fait et non pas elle. Si Dieu n'avait pas regardé la Sainte Vierge, elle serait restée dans sa bassesse. Et il déploie la force de son bras, il exalte les humbles, il détrône les puissants, il fait tomber de leur trône, un faux trône, bien entendu. Je ne vais pas vous dire comment on pratique l'humilité tout de suite, parce que ça dépend de vos parents. Vous avez des parents. Moi, je suis un prédicateur. De loin, je ne peux pas éduquer, même de près. Il faut pas confondre. Le prêtre peut aider les éducateurs, mais il n'éduque pas. Il ne remplace pas les parents. Il ne peut pas remplacer les parents. Oui, si les parents confient leur fils au prêtre comme... Et les parents de Saint-Maur ont confié leur fils tout jeune à Saint-Benoît. Bon, Saint-Benoît est devenu le père, si l'on peut dire. Alors là, d'accord. Et si je prêche cela, c'est parce que les parents ont une responsabilité pour faire vivre les enfants dans l'humilité. Et l'humilité, pour cela, vous avez l'obéissance. La première qualité du jeune, dit Saint Jean Bosco, c'est l'obéissance. Or, la première qualité de l'homme, dit saint Thomas d'Aquin, c'est l'humilité. Alors, est-ce que saint Thomas d'Aquin et saint Jean Bosco ne sont pas d'accord ? C'est très simple. La forme d'humilité du jeune, c'est l'obéissance. Et dites-vous bien, mes chers amis, que vous obéissez pour les choses que vous ne comprenez pas. Si vous compreniez, j'aurais pas besoin d'obéir. Il y aurait quand même l'humilité, mais vous vous soumettriez vous-même, tout seul, au bon Dieu. S'il y a besoin d'obéir, c'est parce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Et paradoxalement, vous avez les choses essentielles que vous comprenez très tôt, et les choses matérielles, enfin très simples, que vous comprenez très tard. Ne dites pas qu'on vous prend pour des petits, hein. C'est pas parce que je vous parle d'humilité qu'on vous prend pour des petits. Quand on vous parle du bon Dieu pour la première communion, que le bon Dieu vient en vous dans le jour de votre première communion, vous n'êtes pas des petits, là. Vous êtes des rois qui sont traités royalement par le roi du ciel. Lorsque vous allez vous confesser, vous n'êtes pas des bébés. Vous répondez de vos actes. Lorsque vous recevez la confirmation avec l'huile royale, lui qui fait les évêques, vous n'êtes pas des bébés. Évidemment, quand il s'agit de savoir pourquoi la cigarette est nocive, quand il s'agit de savoir pourquoi le téléphone portable est nocif, pourquoi la musique de rock est une musique de sous-homme, ces choses-là, il faut l'expérience de la vie, vous ne l'avez pas. Alors évidemment, on ne peut pas vous expliquer, là il faut obéir. On vous explique un petit peu, mais la principale explication qu'on doit vous donner dans ce cas-là, c'est que vous n'avez pas encore l'expérience de la vie, que vous n'êtes pas encore des adultes, que vous ne connaissez pas les choses, et que par conséquent, ben, vous ne pouvez pas tout diriger. On a trop tendance aujourd'hui à prendre les jeunes pour des grands, là où ils sont petits, et du coup, pour des petits, là où ils sont grands. Il n'y a qu'à voir les illustrations mièvres des livres de préparation à la première communion, des livres de piété. Oh, pas tous, bien sûr, mais je pense aux illustrations des livres de piété des charismatiques, à ceux du Barou, des Ralliers, les illustrations de Joël et d'Abadi, etc., plein d'autres. C'est digne des illustrations des triplés du Figaro magazine. Des petits enfants gentils, avec tête toute blonde et aux yeux bleus, et des petites filles gentilles avec jupe à carreaux écossais. C'est pas comme ça qu'on fera des hommes. Et à côté de cela, qu'est-ce que vous voulez ? Il y a des choses pour lesquelles les adolescents sont encore des adolescents. Et on était adolescents jusqu'à 30 ans à Rome. Alors voilà, les mages sont venus adorer notre Seigneur Jésus-Christ, reconnaître la toute-puissance de Dieu. Eux, les mages, les rois mages, eux, les grands, les sages dans leur pays, eux qui ont compris les signes du ciel, sont venus adorer notre Seigneur Jésus-Christ, adorer ce petit enfant qui est le roi du ciel. Alors comment l'adorons-nous? C'est un des premiers actes de la vertu de religion. On ne peut pas se situer par rapport à Dieu sans reconnaître que Dieu est Dieu, sans reconnaître que Dieu est tout-puissant, sans reconnaître qu'il est infini, et pas seulement infini, mais le Créateur infini, et que la moindre des choses tient dans sa main. Alors, je vous fais remarquer que les rois mages ont pratiqué également, dans l'adoration, le sacrifice. Ils ont offert de l'or à notre Seigneur qui est le roi. L'or, ça sert à acheter des choses. Qu'en ont-ils fait, la Sainte Famille? On ne sait pas, ça n'a pas d'intérêt. L'ont-ils donné aux pauvres? L'ont-ils utilisé pour la fuite en Égypte? Cela a-t-il servi à Saint-Joseph à s'installer en Égypte? J'en sais rien, peu importe. Ça n'a pas d'intérêt, puisque l'Évangile ne nous le dit pas. Mais enfin, quand même, la Sainte Famille a eu plus qu'une pièce d'or. Hein, c'était probablement une petite cassette, au moins. Et ils ont donné cela au roi du ciel. Pourquoi ? Pour son service. Il est évident que le geste extérieur est la signification d'un geste intérieur. Sinon, c'est de l'hypocrisie. Faites attention, mes chers amis. Faisons attention, les pères et mères de famille. L'hypocrisie est très facile chez les tradis. S'il suffisait de se mettre à genoux au canon de la messe pour que les dispositions intérieures soient conformes aux dispositions extérieures, ça serait facile. S'il suffisait d'être un bon servant de messe, qui connaît bien sa fonction, ça serait facile. On peut être des servants de messe très orgueilleux. J'en ai connu. Les mages sont humbles. Ils viennent adorer. Ils donnent l'or, l'encens, la myrrhe. Je ne vais pas vous parler des trois cadeaux, mais l'or est le signe de la majesté de Dieu. Ils offrent cet or, qui est à eux, pour la grandeur de Dieu. Cet or va être utilisé par Dieu pour la grandeur de Dieu. Alors je conclue, mes chers amis, quel est votre or ? Quel est votre or ? Je me rappelle, j'étais en quatrième. Je vous l'ai déjà raconté, ça, je crois. On quêtait pour les pauvres qui n'avaient pas de quoi se chauffer. À l'époque, même en quatrième, nous étions en culotte courte. Et l'hiver était rigoureux, c'est pour ça qu'on faisait la quête. Je n'avais pas du tout envie d'aller faire la quête pour les pauvres. Et maman m'a dit, « Tu n'as pas d'argent à donner, mais tu as du temps. Alors va donner ton temps. » J'ai passé tout un jeudi après-midi, c'était le jeudi à l'époque, le jour de congé, j'ai passé tout un jeudi après-midi à faire la quête, et ça s'est reproduit plus d'une fois. Alors vous avez du temps, vous avez de l'énergie, vous avez des préoccupations. Comment allez-vous les mettre au service de Dieu ? Comment allez-vous donner votre or intérieur au bon Dieu ? L'or de vos mains, l'or de votre intelligence, l'or de vos préoccupations, l'or de votre amitié ? Comment allez-vous adorer Dieu avec vos amitiés, avec vos amis ? Allez-vous vous adorer vous-même ? Vos amitiés ont-elles pour but de vous adorer vous-même ? Ou ont-elles pour but d'adorer Dieu ? Réfléchissez bien à cela. Demandez à la Sainte Vierge cette grande humilité. Récitez le Magnificat. Récitez les litanies de l'humilité qui sont dans le livre bleu. Et puis adorez notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Bon courage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.